masque ont pompé, vous serez un peu surpris de voir qu'il y a quatre noms sur la diapositive et qu'il n'y a que trois personnes. Il faut juste que je précise que Joyeux Gris, c'est moi. Donc voilà. Ne soyez pas surpris, tout est normal. C'est les petites surprises de Stéphanie Nigo. On va s'intéresser dans ce café littéraire et bien à Internet et aux nouvelles manières de parler du livre. Et c'est intéressant parce qu'on voit effectivement beaucoup d'évolutions. Et quand on parle livre, on verra aussi que c'est pas seulement le livre, parce qu'avec Samantha, et aussi bien avec Lionel d'ailleurs, c'est aussi le métier d'écrivain, toute la chaîne du livre qui est concernée. C'est beaucoup d'explications et c'est souvent très intéressant pour nous lecteurs de découvrir un peu l'envers du décor et de rentrer également dans la vie professionnelle des auteurs que vous côtoyez. Parce que on se rend compte aussi à quel point c'est pas toujours très très simple. J'ai commencé avec Samantha, justement. Au départ, on en avait parlé il y a quelques années dans un café littéraire sur l'écriture, où j'avais cité ton blog à l'époque, et puis l'évolution naturelle est venue. Aujourd'hui, c'est une chaîne YouTube que tu animes. Comment t'es venue l'envie, justement, de jouer avec Internet, de travailler sur les réseaux sociaux, pas seulement d'ailleurs en termes d'écriture, mais également, justement, en termes de d'explication de texte, un peu d'une certaine manière, sur ta vie, ton œuvre et ton travail, surtout.
Alors, tout d'abord, je suis vraiment de la génération Internet. C'est-à-dire que dès que j'avais 14 ans, j'avais déjà un site où je mettais mes écrits en ligne. Donc, je suis vraiment l'auteur web par excellence qui a démarré par ce biais-là, en ayant ses premiers lecteurs et une communauté de lecteurs avant même de publier encore un roman. Comme tout, les choses évoluent, les médiums aussi, et... pour le coup, j'étais très Facebook, très site internet. La chaîne YouTube, ça a vraiment marqué un cap. Je voyais bien sûr fleurir les chaînes BookTube que beaucoup d'entre vous doivent connaître. Et j'étais assez fascinée en me disant, waouh, mais quel courage toutes ces personnes ont à se mettre devant la caméra comme ça, dans leur chambre, à parler de ce qu'elles aiment, des livres. Et je me disais, mais j'étais très freinée par l'aspect technique en me disant, ça va être difficile. Et... une amie qui s'appelle Jade Sekela, qui est aussi photographe, on se connaît depuis le lycée. On a commencé à en parler un jour, et j'étais là, j'aimerais bien faire une chaîne. Elle m'a dit, mais écoute, qu'est-ce que tu dis que je t'accompagne dans cette aventure? Donc on a fait ça de manière extrêmement professionnelle, c'est-à-dire que moi j'ai dégagé une partie de mes revenus pour les reverser à Jade, pour vraiment qu'elle fasse la partie technique de la chaîne YouTube, comme si j'avais un peu mon propre média, quelque part, en quelque sorte. Et j'y tenais parce que je suis très sensible aussi à cette idée de rémunérer les gens pour leur travail à hauteur de ce qu'ils font. Donc pour moi, c'était vraiment important d'être cohérente.
On en dira un mot d'ailleurs. Voilà. C'est l'objet d'une des récentes vidéos, justement.
Voilà, exactement. Et du coup, j'ai construit la chaîne de cette façon en me disant bah, pourquoi pas, après tout, faire des pastilles selon trois angles en fait. Vie d'auteur, des petits sketchs humoristiques où vraiment il y a un aspect un peu de recul, humour, etc. pour parler de la vie de l'auteur, de ce que c'est. Et l'humour permet ce petit décalage assez utile souvent. Les conseils d'écriture.
Ça rassure les nains qui ne se retrouvent pas avec le seul comique à accessoires.
C'est ça, exactement. Exactement. Aussi, les conseils d'écriture un peu plus sérieux, un peu plus pédagogiques pour vraiment transmettre un certain nombre d'informations et de conseils que j'aurais aimé avoir à une époque. Et puis, un côté un peu plus, on va dire, reportage, édition, pour parler là du milieu en général et aussi des autres métiers autour de l'écriture. Donc, c'est une chaîne d'auteur qui parle évidemment de mon quotidien d'auteur, de mes livres, etc. Mais plus loin, qui nourrit et donne un certain nombre d'informations.
Lionel, même question. Comment es-tu arrivé d'abord un site qui est en même temps un blog où il y a un peu des billets d'humeur, des informations, des remarques, quelquefois des sujets un peu polémiques qui bousculent un petit peu. Et puis, alors, ça on en parlera un peu plus en détail encore évidemment, c'est ta blog. Depuis quelques mois maintenant, il y a un système de podcast qui là, pour le coup, est vraiment consacré, et ça va un peu compléter ce que venait bien Samantha, vraiment, à votre manière de travailler. Il n'y a pas que toi, on aurait pu faire venir Laurent, j'ai dû former avec nous, et Mélanie Fazi, qui s'appelle Procrastination.
C'est ça, tout à fait.
Bon, procrastiner, utile, ce sont des questions. Quitte à procrastiner, autant écouter un truc dessus. Alors, comment ça a démarré? Alors, sur le site et le blog, en fait, ça, c'est il y a des années, moi, je suis un peu plus tard que la génération Internet. Moi, j'ai découvert Internet à 18, 19 ans, en tout cas.
en tout cas, enfin, je suis un gros geek, en commençant. Donc, ces nouvelles techno et tout, c'est ça qui me botait pas mal. Et je reviens maintenant sur ce que tu disais, où je pense qu'on a un peu le même genre d'expérience là-dessus. Enfin, moi, quand j'ai commencé à vouloir faire sérieusement, je me suis dit, c'est un métier, il y a des trucs à apprendre, notamment concernant la technique de l'écriture. Si vous voulez devenir peintre, ça peut aider d'apprendre l'architecture, l'anatomie, etc. Savoir ça, enfin, pas forcément vous un bon peintre, mais ça peut au moins vous éviter d'être un mauvais. Il en va de même pour la musique. Si vous voulez faire de la musique, si vous n'avez pas de muscles dans les doigts, ça ne va pas dire vous faire des gammes, mais si vous n'avez pas une certaine habileté, complètement, ça ne va pas forcément vous non plus un bon musicien, mais si vous voulez jouer un truc compliqué, si vous n'avez pas les muscles, ça ne va pas le faire. Donc, je me suis dit, l'écriture doit avoir la même chose. Et en fait, cette approche très technique de l'écriture, avec ses codes, ça n'existait quasiment, pour ainsi dire, pas en français. Et je l'ai trouvé chez les Américains. Et moi, il y a un principe dans les métiers de la création auquel je crois très fort, c'est, on dit en anglais, you can never pay back, you can only pay forward, c'est-à-dire qu'on peut jamais, il y a des gens qui vous mettent le pied à l'étrier, il y a des gens qui vous aident parce qu'ils sont déjà dans le milieu, ils vous montrent des trucs, ils vous prennent pour les tests, ils les reprennent, ils vous montrent ce qui va pas. Donc, c'est extrêmement difficile, vous ne pouvez pas renvoyer l'ascenseur à ces gens-là parce qu'ils sont toujours plus âgés, plus expérimentés que vous, forcément. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien, vous payez votre dette. Ben, vous le faites pour les gens qui viennent après. Donc du coup, tout simplement pour le blog, moi j'avais envie de pouvoir proposer tout simplement ce que j'aurais aimé trouver moi quand j'ai commencé, c'est-à-dire une espèce de prando, avec le ton que j'aurais aimé trouver aussi, c'est-à-dire pas de trucs hyper, pas de mots, de techniques littéraires hyper compliquées juste pour avoir l'air intelligent. Je n'ai rien contre les mots hyper compliqués, techniques littéraires, mais ils ont leur raison d'être. Mais pour moi, ça n'allait pas avec le côté un peu détendu et surtout l'approche extrêmement opérante de l'écriture, puisque l'écriture, c'est beaucoup de choses, mais entre autres, c'est l'art de créer quelque chose qui n'existe pas à la base. Et le problème, c'est que l'analyse littéraire travaille sur quelque chose qui existe déjà. Et tout ce qui vient avant, il y a encore ça monte à faire un super boulot, on essaie d'être plusieurs à faire quelque chose là-dessus, et encore tourne le truc. Donc tout simplement, j'essaye de payer ma dette karmique en essayant de diffuser le peu que j'ai pu apprendre.
Ce qui est intéressant, et j'imagine que c'est pour ça que Stéphanie vous a désigné tous les deux pour cette table ronde, c'est qu'on parle évidemment des réseaux sociaux. Vous pourriez tout à fait vous contenter d'un côté un peu marketing, de votre actualité, de vos sorties, de vos nouveautés, de vos rendez-vous dans les salons, etc.
Alors, je veux dire, tout le monde s'en fout, ça. Très honnêtement, moi je sais, j'ai les stats sur mon site, tout le monde s'en fout, ça n'intéresse personne, et c'est normal. Je veux dire, si vous venez lire ce que quelqu'un a à vous raconter, si vous aimez l'auteur, vous suivez peut-être un peu ce qu'il raconte, mais si vous suivez son blog au jour le jour, vous n'êtes pas là pour vous lire un monument dressé à sa personne. Donc, évidemment, enfin moi, je, voilà, un blog c'est un peu comme un bar, on est avant tout là pour créer une ambiance sympathique. Quand on fait tourner la boutique, on y est, vous voulez reprendre un verre. Mais c'est tout.
C'est mental. Ça paraissait pas. Il fallait
pas,
que plus
pas
que.
Ouais, voilà. En fait, je pense que c'est aussi une question de personnalité. Et avec Lionel, à mon avis, ce qu'on a en commun, c'est qu'on partage énormément, assez naturellement. Et c'est vrai que. J'ai toujours, moi, parlé de mes livres, et ça me paraît très important. Mais. Ce que j'avais envie, c'était de transmettre un certain nombre de choses. Donc, il respecte le conseil d'écriture, etc., très technique d'écriture. Mais ce que j'avais envie de transmettre, moi en particulier, en tant que jeune auteur qui a démarré très très jeune dans ce milieu et qui, voilà, maintenant suit son petit bonhomme de chemin, c'était des conseils assez pratiques, en fait, sur l'édition, sur ce que c'est que d'être un auteur aujourd'hui, d'être un auteur professionnel, et sur un certain nombre de sujets assez tabous, je pense qu'il faut bien le dire. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on m'en a parlé pendant tout le festival, donc je reprends les termes c'est ça l'envers du décor.
Parce que tout le monde sait, par exemple, que vous avez le même compte en banque que Marc Lévy, par exemple.
Voilà,
les
c'est
deux.
Ça, exactement. Les auteurs, hein, bien sûr, qui gagnent si bien leur vie, etc. Mais c'est même au-delà de l'aspect pratique, c'est qu'est-ce que c'est que l'édition, qu'est-ce que c'est que l'auteur dans la société. Et on est resté un peu figé dans cette image sacralisée de l'auteur, l'auteur artiste désincarné. Et c'était intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de retours là pendant que j'étais en dédicace qui me disaient mais en fait le fait de faire une chaîne YouTube ça vous rend vivante et je trouvais ça très intéressant, très très intéressant, mais ouais en fait je suis vivante, je suis pas un don sur une couverture, je suis un être de chair, de sang qui a des besoins etc. Et de parler, de rentrer dans le vif du sujet de manière assez professionnalisante, de dire bah ouais c'est ça la chaîne du livre, voilà comment ça se passe quand on négocie un contrat, tout de suite ça rend les choses plus réelles. Et je tenais à ça le transmettre parce qu'en tant que jeune auteur de mon parcours, j'ai rencontré un certain nombre de difficultés, il est vrai, par manque d'informations, par manque de formation. Et je pense qu'il manque et qu'il y a un énorme manque à combler et que je vais m'atteler à combler parce que je suis très investie dans la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse sur la professionnalisation des auteurs en réalité. Donc j'essaie de transmettre via la chaîne tous les conseils que j'aurais aimé avoir.
Il y a un élément, alors, dans cette fameuse vidéo que j'évoquais tout à l'heure, et celle où tu expliques pourquoi tu as choisi d'avoir un agent littéraire, quand on la regarde, en fait, c'est pas du tout une manière, j'allais dire, de faire un peu de la retape pour dire, mais aussi prendre des agents. Non, c'est vraiment expliquer comment tu es arrivé à cette décision-là. C'est pas du tout du prosélytisme, c'est pas du tout. Et dans cette partie où tu expliques justement comment tu as fait ce processus de réflexion, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé instantanément, c'est que dans tes recherches, tu es passé justement par le biais d'études autour de la question de l'édition, et tu t'es rendu compte de quelque chose qui est quand même assez troublant, c'est l'absence totale de l'auteur dans tout ça.
Oui, c'est que pourtant, et puis alors il y a un processus, enfin, moi je crois qu'il y a beaucoup de psychologie là-dedans, vraiment l'auteur a du mal à se revendiquer. Alors, c'est paradoxal parce qu'à la fois, c'est lui qui est au centre de toutes les attentions. Vous voyez, vous êtes là, vous imaginez, vous êtes en dédicace, ben c'est l'auteur que les gens viennent voir. C'est l'auteur, voilà. Et finalement, il y a ce côté, dans les métiers du livre et globalement dans les positions de beaucoup d'éditeurs, mais qui, je pense, vont être amenés à évoluer d'une façon à une autre. C'est une forme de sensibilisation et de position des auteurs eux-mêmes, qui est de dire, en fait, l'auteur, il n'est pas au centre. Il est complètement absent presque. C'est-à-dire que, voilà, je me souviens là, il y avait une fête du livre et donc le maire a remercié tout le monde. Il a remercié les éditeurs, il a remercié les libraires, il a remercié le diffuseur. Ben, ouais. Il n'a même pas cité l'auteur. Je me disais, mais c'est incroyable, on en est quand même à ce stade à un moment. Donc, c'est remettre l'auteur au centre, le créateur. D'un point de vue juridique en France, quoi qu'on en pense, au niveau du droit d'auteur, on a une protection assez forte hein, de l'auteur, mais qui n'est pas du tout en corrélation avec la réalité de la façon dont on est traité, en fait. Et du coup, je trouve ça très, très intéressant d'aborder cette question via l'agent, mais je fais en effet un travail quasi de recherche. C'est-à-dire que... Bah, j'en
c'est de la sociologie.
Oui, c'est de la sociologie, presque du journalisme, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que bah, l'agent, je ne veux pas en faire une apologie, parce que je vois bien qu'il y a des pratiques d'agents qui sont aussi des pratiques problématiques. Donc, il faut être extrêmement neutre, et je crois qu'il faut se questionner avec beaucoup de précision sur les choses, et d'essayer de les comprendre, et de ne pas être dans le côté binaire ou manichéen. Et l'agent, c'est intéressant de voir que, finalement, bah, les scénaristes, les comédiens, tout le monde a un agent. Enfin, je veux dire, c'est... Ça paraît logique pour tout le monde de créer une scission entre l'art et l'aspect plus juridique et commercial qui va avec, et qu'on ne peut pas renier. En fait, ce qui est intéressant, c'est que nous, en tant qu'auteurs, on nous demande, en fait, on est vraiment les mécénats de la culture, quoi. On nous demande de renier, voilà, absolument tout cet aspect, parce que nous, ben voilà, on est des gens bien, quoi. Hein, on va aller porter ça, etc. Mais non, voilà, on ne va pas parler d'argent. Et ben, moi, j'en parle, et je me dis, mais parce que c'est aussi un des aspects. Qui n'empêche pas sur les jeunes de parler d'aspects beaucoup plus créatifs, artistiques.
Ce que dit Samantha finalement, c'est que tout ce travail qu'elle fait, c'est quelque chose d'assez militant également. C'est aussi ce qu'on retrouve un peu chez toi, Lionel. Tu as été beaucoup en pointe, et on peut en dire un mot, puisque c'est une actualité encore assez récente, mais sur la lutte contre relire, on va peut-être expliquer brièvement en quoi ça consiste, mais ça vient de s'effondrer, et pas mal de gens qui sont présents aux Imaginales n'y sont pas pour rien, hein, on va dire les choses très clairement, et ça nous permet aussi d'avoir une petite pensée pour Yardan au passage. Voilà, ce côté militant, très simplement, moi je me vois plus sur le blog, sur ces aspects-là, comme un éditorialiste. J'ai absolument pas été, je ne m'abroge certainement pas le mérite justement de gens comme Yala Yardal et Sarah Doc, comme les gens comme aussi Michel O'Factory, etc., qui sont, et notamment surtout Sarah et Yal, qui sont allés qui ont été le fer de lance, qui sont vraiment allés plaider la cause jusqu'à la Cour européenne pour faire sauter Relire.
Je vais expliquer ce que c'est.
Un mot rapide sur ce qu'est Relire. Donc Relire part d'un constat qui n'est. Ça part d'une bonne intention, et puis vous savez, au même niveau, les groupes peuvent être des meilleures intentions. Ça part d'un constat, il y a un certain nombre de livres qui ont été publiés au XXe siècle, qui ne sont plus disponibles, parce que les éditions ont épuisé, etc. Donc, le projet, à la base, c'est il faudrait que ces bouquins soient à nouveau disponibles. Soit. Autant qu'à faire, puisqu'on ne sait pas combien il y aura de demandes, etc., faisons-le en numérique. Soit. Faisons-le sans demander l'avis de l'auteur, en partageant les sous avec l'éditeur qui a laissé le livre devenir indisponible. Ah non, ça ne va pas. Pour la
déjà avec le rôle des pouvoirs
avec la complicité de l'État, sachant qu'il y a quand même une directive, un truc extrêmement fort dans le droit d'auteur. Je n'entrerai pas dans ce détail-là, mais j'ai un article si ça vous intéresse. Le droit d'auteur, c'est pas le copyright. En France et dans les pays de tradition de droit romain, on a une notion qui s'appelle le droit d'auteur, qui est différent du copyright. Le droit d'auteur, l'esprit de la loi, c'est que il y a une personne, il y a un auteur, la personne justement, qui a créé l'œuvre. Cette personne a des droits sur l'œuvre. Et il ne s'agit pas de créer, de protéger l'œuvre ou sa marchandisation, etc. Ça, c'est le copyright et ça n'a rien à voir. Ça peut être nécessaire aussi pour faire une industrie, mais c'est une question différente. Il s'agit de protéger la personne et ses droits sur son œuvre. Si dès que je vois une traduction de copyright en droit d'auteur, je casse un écran et ça me coûte cher. Donc, il y a une directive dont la France est signataire, qui s'appelle la Convention de Berne en plus, qui dit qu'on ne peut pas utiliser l'œuvre d'un auteur sans l'avis de la personne qui est derrière. Et ça, c'était juste une expropriation pure et simple, instaurée par l'État, avec des partenariats de gros sous, avec des boîtes qui devaient numériser ça à grands frais. Et l'auteur avait juste le droit de consulter tous les ans l'énorme base de données qui était en plus construite avec les pieds parce que c'était censé concerner la fiction francophone parue au XXe siècle et il y avait donc très naturellement des bouquins traduits de l'anglais et certains parus au XXIe siècle. Et l'auteur avait juste le droit de regarder une fois par an, taper son nom timidement dans un champ de recherche pour voir s'il était dedans. En plus, son moteur de recherche marchait à peu près pas bien. Et s'il n'était pas d'accord, il pouvait essayer d'envoyer une lettre en disant deux secondes. Moi, non, je veux pas parce que, par exemple, les droits numériques m'appartiennent. Peut-être que je dois exploiter le bouquin moi-même, par exemple. Et ensuite, il fallait qu'il saute après tout un tas de cerceaux pour prouver qu'il était l'auteur de l'œuvre. Donc, je pense que vous avez pu comprendre qu'on était un tout petit peu énervé.
Donc c'est vrai que voilà, c'est aussi une partie du travail que tu as pu faire à travers ton blog, hein, c'est aussi d'informer sur ces questions-là, parce que je pense que parmi les gens qui nous écoutent là, il y en a probablement qui viennent d'apprendre tout ça et découvrir un peu ce qu'il y avait derrière, comme tu l'as dit, quelque chose qui finalement partait d'une bonne intention, qui était de nous permettre à nos lecteurs d'accéder à des textes qu'on ne pouvait plus avoir.
Je crois que, je ne dis pas de bêtises, en Italie, ils ont exactement le même problème, ils ont fait exactement la même chose, sauf que, juste un détail, ils demandent l'avis de l'auteur d'abord. Mais en France, on nous a dit que c'était trop compliqué, il faut trouver leurs coordonnées, voilà.
Et comment tu les payes si tu n'as pas les coordonnées, c'est intéressant.
Oui, en plus, parce que l'auteur est censé être payé, mais apparemment, les trouver pour demander le droit, c'est très compliqué, voilà. C'est, bon, bref. Mais en Italie, ils y arrivent très bien, hein, donc, bizarrement. Donc oui, il y a énormément de choses sur le métier du livre, Samantha, tu l'as très bien dit, qui sont pas connues, et c'est normal, ça fait partie de l'envers du décor. Par exemple, pourquoi un livre coûte le prix qu'il coûte ? Ce genre de choses. Et qui en rémunère derrière ? Comment ça fonctionne, etc. Il y a des tas de choses qui sont pas connues, et c'est des choses, je pense, on est dans l'époque évolue de plus en plus, où je pense que l'acheteur, je ne vais pas dire le consommateur dans le domaine de la culture, parce que ça fait un peu tranche de jambon, même si j'aime beaucoup le jambon, mais l'acheteur, je pense qu'il y a une volonté de plus en plus, qui est en train vraiment de s'imprégner de plus en plus de la part de l'acheteur, de la personne qui soutient un secteur, de s'impliquer et de connaître de plus en plus le secteur dans lequel il est, et une prise de conscience de la responsabilité aussi de cet acte d'achat. Et du coup, tout simplement, voilà, c'est justement de montrer l'envers du décor, comment ça fonctionne, quelles sont les évolutions. Donc, c'est pour ça que je disais que j'ai plus un rôle, je me vois plus comme un rôle d'éditorialiste, surtout que, en plus, quand je dis ça, ça me permet d'avoir un ton assez libre et parfois de mettre un de gros mots, et c'est marrant.
Est-ce que, finalement, à vos yeux, à tous les deux, un lecteur informé est un meilleur lecteur ?
ce que je constate, et particulièrement sur ce festival, c'est à quel point les lecteurs sont attachés aux auteurs, en réalité, à quel point il y a un lien direct entre nous, qui est réel, qui est là, qui est palpable. Et quand on voit, en effet, ce que tu décris, Lionel, avec Relire, ce qui peut se passer, peut-être qu'il est temps aussi qu'un certain nombre d'instances et d'éditeurs se rappellent que c'est le créateur qui est au centre, en réalité, de la création, que nous avons des droits, que nous les cédons, pour une durée d'ailleurs, que nous pouvons tout à fait limiter dans le temps, hein, n'est-ce pas, et que nous méritons un certain nombre voilà, de respect, de considération, etc. Et je pense que ce lien d'information qui est fait au lecteur sur, c'est pas que nos conditions, mais notre façon de créer, notre façon de raisonner, sur tout ce qu'on est finalement, et sur les œuvres qu'ils ont aimées, je trouve ça extrêmement précieux. Donc je ne dis pas que c'est un meilleur lecteur ou quoi, mais je pense que le lecteur est assez enrichi de ça potentiellement, et je le vois bien, moi aussi, c'est tout bête, mais j'ai mon compte Instagram, et je me rends compte du lien qui se crée en fait par cet intermédiaire, et ça fait du bien, parce que quand on publie un livre, il y a quand même un petit différentiel de temps, vous voyez, vous passez 2 ans à bosser dessus, alors après il faut encore attendre, au bout d'un an il sort, bon, et puis il est en librairie, et on ne sait pas trop, quoi. Il y a des gens qui le lisent, bon voilà. On a la chance avec les nouvelles technologies. Moi, quand je reçois tous les jours des messages de lecteurs qui me font des retours, qui me disent ce qu'ils en ont pensé, ce que ça leur a fait, ce que ça a suscité comme émotion, je trouve ça incroyable. Enfin, je trouve que c'est galvanisant et qu'en plus, c'est du partage, en fait.
C'est pour une génération d'auteurs quelque chose qui est totalement nouveau. Et...
C'est complètement nouveau. C'est ce que m'avait dit d'ailleurs un libraire, je ne sais pas si c'est une analyse qui est pertinente ou non, mais qu'il trouvait que dans les dédicaces librairies, il justifiait, lui, qu'il y ait moins de personnes en général en dédicace librairie, du fait qu'il y a un lien plus direct potentiellement maintenant qu'on n'a plus besoin d'écrire une lettre à un éditeur et que cette lettre sera peut-être transmise à l'auteur, que là bon, on peut le contacter sur Facebook, Instagram, lui envoyer un mail, etc. Je ne sais pas du tout si c'est une analyse pertinente sur quoi que ce soit sur la librairie, mais je sentais que lui, en tant que libraire, en tout cas, ça travaillait qu'il y ait ce lien qui soit plus direct, qui commence à exister.
Il y a une analyse sur ces questions-là. Sur la librairie, Bon, on a beaucoup revendiqué la condition des auteurs. À la base, toute forme de création, elle a ce rôle complètement hybride, extrêmement difficile à tenir et quelque part fondamentalement instable au sens de l'équilibre. Sur le fait qu'on parle d'œuvres de l'esprit donc, qui sont par nature inqualifiables en termes de valeur et que nous sommes dans un système qui est fondé sur la valeur que l'on met en bas de la valeur marchande. Donc toute la difficulté du prix de la chaîne de valeur se trouve finalement résumée dans cette inadéquation fondamentale entre ce qu'on crée et le fait que c'est inestimable, non pas au sens de hors de prix, mais au sens impossible à estimer. La chaîne du livre et le livre à la culture, c'est à cet aspect évidemment de transmission de la culture, de cet aspect inestimable, mais c'est également une industrie tout simplement. Et donc bon, sur la librairie, je crois beaucoup à la notion de chaîne du livre, de manière générale, comme interprofession et comme industrie, c'est-à-dire, idéalement et normalement, le système, beaucoup de choses dans le système essayent de fonctionner dans ce sens-là. On travaille tous pour le même but. On travaille tous pour faire en sorte que les bouquins qu'on fait, qu'on édite, qu'on corrige, qu'on imprime, qu'on distribue, qu'on vend, se vendre le mieux possible, parce que si c'est le cas, là, tout le monde est bien rémunéré. Et dans ce cadre-là, moi, je crois beaucoup au rôle de la librairie, à tous les maillons de la chaîne, en fait. Celui de l'auteur mériterait parfois, souvent, également, un peu plus de considération. Notamment, c'est assez hallucinant ce que tu as raconté. On remercie tout le monde par l'auteur, c'est juste à l'origine de la chaîne, mais c'est pas grave. Mais je crois aussi à l'autre bout de la chaîne, par exemple, beaucoup au rôle du libraire qui a ses clients, je sais que tu y crois aussi, bien sûr, mais qui est prescripteur, qui connaît son public, qui va aller, quand il est bon, faire ce travail d'aller vers son lecteur, ce travail de recherche inlassable et continu d'informations et de prescriptions à ce public.
Et sur ta relation lecteur, est-ce que justement tu as une évolution là aussi?
Moi, à partir du moment où j'ai décidé de me mettre sur les... J'ai pas un amour fou pour Facebook. J'ai beau être un gros geek,
je suis assez critique vis-à-vis des nouveaux médias, d'Internet, etc. J'ai un amour relativement limité pour Facebook, pour des gens comme Facebook et Amazon, par exemple, ou Google aussi d'ailleurs. Ça n'empêche que je suis sur Facebook, mais à partir du moment, c'est une question de choix. À partir du moment où j'ai décidé que je me mettais sur Facebook, sur Twitter, etc., c'était pas juste pour faire une devanture de magasin et dire ouvert de 10h à 17h, acheter mes livres en plusieurs exemplaires si possible. C'était au contraire pour raconter des trucs et pas tellement pour parler de bouquins. De toute façon, le blog existe. Donc, il y a un truc qui m'a. Au cours du festival, quelqu'un est venu me voir et me dit. En fait, se dit ah, mais je suis machin sur Twitter. En fait, on avait échangé 2-3 phrases, discute un peu et tout, et au bout d'un moment, il me dit mais en fait, je suis machin sur Twitter. Et tout de suite, la relation change. Je fais ah, mais oui, mais. Parce qu'on avait vachement discuté, en fait. Ah, mais carrément, mais c'est super, c'est génial, notre rencontre en vrai, etc. Et la personne me remercie en disant bah écoutez, non, mais c'est cool. Et me dit écoutez, merci, c'est sympa parce que vous êtes super accessible sur Twitter. Je me suis dit c'est pas le but de l'idée, en fait, c'est pas un peu pour ça. Enfin, je veux dire, c'est pas pour être accessible sur Twitter, pourquoi on se met sur Twitter. Enfin, c'est. Donc, voilà. Il y a une interaction qui est peut-être beaucoup plus facile et plus directe, et ça, c'est assez génial, notamment, comme tu me disais, quand il peut se passer des années entre des bouquins, maintenir le lien, et puis, parfois, voilà, on écrit des passages, parfois, on est un peu en train d'écrire un bouquin, on a un peu des périodes de doute, et d'un seul coup, il y a une critique dithyrambique. Dithyrambique, c'est cool, mais encore plus précieux, la personne vous envoie un mail et vous dit, bah, votre bouquin m'a vachement touché, ça m'a fait du bien. C'est vachement bien en retour, notamment quand vous êtes en train de galérer sur un passage. Donc il y a clairement une interaction qui est plus directe, mais je pense que il y a peut-être une mutation qui n'est pas encore tout à fait consommée de certains auteurs qui voilà, parce que les mœurs évoluent à s'approprier véritablement l'outil et à finalement pas avoir peur de se planter, dire des bêtises, etc. Tu parlais de l'aspect humain derrière, et je pense que c'est au cœur de tout ça.
Alors, Samantha a choisi la chaîne YouTube, toi tu as choisi le podcast. Pourquoi ce choix?
C'est moi, je l'avais à produire.
C'est une bonne raison.
C'est une bonne raison. Et puis en plus, en fait, ça partait. Donc notre podcast qu'on fait avec Laurent Jeunefort et Mélanie Fazi, qui s'appelle Procrastination, est directement inspiré d'un podcast américain équivalent qui s'appelle Writing Excuses, qui existe depuis 9 saisons, je crois, qui est dirigé par Brandon Sanderson, et c'est exactement la formule qu'on a, c'est-à-dire c'est 15 minutes de discussion sur un sujet très précis de technique d'écriture ou du métier au sens large, et pas plus. De manière à aller droit au but, être très précis, et en gros, la blague, on appelle ça procrastination, c'est parce que on fait un podcast sur l'écriture, mais on ne fait pas des épisodes de 2 heures pour donner une raison de ne pas écrire pendant 2 heures. Il n'y en aura qu'un quart d'heure et après il va falloir bosser. Et j'écoutais Writing Excuses, que j'aime beaucoup, et je me suis dit très bêtement, c'est vachement bien, ce serait bien que ça existe en français. Et au bout d'un an et demi, je me suis dit, si tu veux que ça existe, il va falloir qu'on s'y colle. Donc, et puis on avait une discussion avec Ed Bakin, un des sites de référence de l'actualité de l'imaginaire en France, Ed Bakin.net, et qui parle. Qui est très précisément de la fantasy, grand site de référence, association qui parle beaucoup de la fantasy. On discutait avec Emmanuel Chastelier, qui est un des fondateurs, qui maintenant est passé du côté obscur de la France, puisqu'il écrit. Il écrit très bien d'ailleurs. Puisqu'il était son roman, Céleste Paul a été nominé au finaliste du Village, qui était le finaliste du Goût, c'était les deux titres, vous avez vu.
Céleste Paul, c'est la nouveauté.
Donc le Village a été finaliste du Prix Imaginaire. Finaliste du Prix Imaginaire. Et donc on se disait, on ferait bien quelque chose, mais quoi autour de la notion de blog, etc. Et ça là, j'ai dit, pourquoi, est-ce que vous avez des podcasts, est-ce que vous ne seriez pas émergé un truc comme ça. Et du coup, c'est parti, on a discuté avec Laurent, avec Mélanie, et toujours dans la même idée. L'intérêt du podcast aussi, mis à part l'aspect budget, c'est que je fais de la musique pour des jeux vidéo aussi à côté. Donc, produire du son, je sais faire, en fait. Donc, c'était pour moi, c'est très simple. De se rassembler, de se mettre dans une pièce, de mettre le magnéto, et moi je reviens et je produis le truc. Pour moi, c'est extrêmement. J'ai tous les outils pour faire ça et je sais faire. Donc c'était facile aussi. Et Makin, très aimablement, nous héberge et nous fournit tout. Et j'en profite pour les remercier parce qu'ils s'occupent de toutes les diffusions sur iTunes, YouTube. YouTube, SoundCloud, etc. Et donc, ça me prend un temps fou, ça. Donc, qu'il soit remercié parce que ça fait aussi du temps pour vous.
Alors maintenant, on va vous faire parler vous aussi, peut-être un petit peu quand même. Parce que si vous êtes là, c'est un sujet qui vous intéresse. Combien il y a de blogueurs dans la salle? Blogueurs, de booktubeurs. Ah, pas tant que ça, finalement. Et de lecteurs de blog? Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Est-ce que vous avez des questions, des expériences à partager avec nous? Parce que le sujet, c'est aussi la manière de parler des livres d'aujourd'hui et des nouvelles façons de parler des livres. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui, justement, ont vu ça évoluer. Alors, j'allais dire les plus anciens d'entre nous, c'est moi, je suis en train de dire. Mais ceux qui étaient lecteurs avant l'ère Internet, est-ce que par exemple, voilà, il y en a. Mais là, je repère pas parce que les deux. Bon, il marche. Ah, bon, tu parlais mal. Bonjour, Joyeux Dream.
Je suis un gars.
Ah, bah, je peux si tu veux. Allez, soyez matinés.
Allez, des questions. Gaël, une question.
Voilà, moi la question que je peux vous poser à vous, c'est qu'est-ce que ça vous apporte finalement toute cette blogosphère qui s'est mise en place parce que vous êtes lecteur. On a parlé de la relation des auteurs avec leurs lecteurs, mais finalement là, ça a changé aussi la relation des lecteurs entre eux. Tout au fond, là, Stéphane.
Une question.
Ah, sinon là-bas aussi.
Effectivement, je suis blogueur.
Donne le nom de ton blog.
Alors, c'est What About a Dragon.
C'est toi, non ?
Oui, c'est exactement. C'est un peu la remarque que je donne bien, c'est vrai que souvent, c'est quelque chose qui arrive. Ah, le bas de la littérature, mais oui, bien sûr. Et c'est vrai que ça change un peu les rapports humains, en fait.
Faut qu'on arrête de s'inventer des faux noms, parce que
c'est vrai. Non, alors, par contre, en fait, tout à l'heure, on parlait du rôle du libraire, et c'est vrai que pour moi, la blogosphère, c'est quelque chose qui a remplacé l'activité prescriptrice du libraire. Je sais que moi, à titre personnel, je me déplace très peu en librairie. C'est quelque chose que. Enfin, c'est pas un réflexe, en tout cas. Et quand c'est des librairies, c'est souvent des librairies qui ne sont pas des librairies spécialisées, pour lesquelles j'ai l'impression d'avoir presque plus de légitimité sur le sujet que le libraire précédemment qui s'occupe autant de la blanche que, que des littératures de genre. Quoi. Donc je dirais qu'il y a quand même un vrai côté.
Alors, empiriquement, donc avec toute la subjectivité que ça implique, je pense que oui, c'est vrai. Mais pour des gens comme toi, on se tutoie, on est tous blogueurs, comme toi, comme vous, qui êtes déjà, dites visiblement quasi en tous des lecteurs et lectrices de blog, et pour les blogueurs, c'est-à-dire des gens qui sont déjà très impliqués dans la sphère de l'imaginaire. Donc là, oui, clairement. Je pense qu'il y a encore, je ne sais pas si on pense à mon temps, mais je pense que le grand public doit encore y venir. Et c'est-à-dire que le grand public n'est pas forcément tellement au courant de ça. Ça concerne plutôt un public vraiment actif qui vient au festival, etc. Et là, il y a très très clairement un rôle prescripteur. Sur le rôle des libraires, un bon libraire spécialisé, normalement, on devrait pouvoir faire. C'est que si ton libraire, tu devrais dire à ton libraire de dire plus d'imaginaire. Comme ça, il n'en prend pas davantage.
Je ne pense pas que ça substitue le libraire, mais ça pose des questions sur le travail de prescription, ça c'est certain. Et en effet, la blogosphère ou les passionnés de littérature qui vont sur les blogs, qui vont sur YouTube, c'est une partie de la population, mais ça ne reflète pas toute la population de lecteurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à mon sens, d'extérieur, je me dis surtout, il y aurait tellement de liens profonds à construire entre blogueurs, booktubeurs, libraires, enfin... J'ai l'impression qu'il y aurait des synergies qui ne sont pas encore explorées, qui seraient absolument passionnantes. Mais bien sûr qu'à l'heure actuelle, avec Internet, on cherche la prescription. Et c'est tellement difficile de faire le tri quand on voit aussi la surproduction et le nombre d'ouvrages qui sortent. Quand on est lecteur, qu'on a aimé un certain nombre d'ouvrages, qu'est-ce qu'on va trouver?
On peut ajouter un élément sur l'imaginaire, c'est qu'on le voit un peu plus avec le lancement sur les imaginaires cette année de ce fameux mois de l'imaginaire où des maisons d'édition se regroupent et si vous n'êtes pas au courant, allez voir un petit peu sur les réseaux sociaux, ça a été lancé hier lors du Bourgage Jeune. Le mois d'octobre 2017 sera le mois de l'imaginaire. On a bien compris que l'idée c'était d'avoir des
essayer de remédier à l'absence de visibilité, en tout cas la visibilité moindre des gens de l'imaginaire. Or, finalement, toute cette blogosphère, tout ce maillage, il vous offre une visibilité qui n'existait pas jusque-là.
Oui, alors, je pense que tout blogueur sait que sur Internet, nul ne vous entend crier. Internet a ce côté paradoxal où, évidemment, tout est disponible et accessible, mais qu'il faut savoir aller le trouver. Et que, moi je l'ai vu quand j'ai commencé le blog, où, en fait, le blog, maintenant, marche très bien, parce que j'ai près de 10 000 lectures uniques par mois. Ça s'est mis à marcher très bien, parce que je faisais des bouquins, du coup, le blog a marché, et voilà. Mais au début, quand j'ai commencé, oh mon Dieu, il y a plus de 10 ans maintenant, c'était sur MySpace. C'est marrant comment quand on dit MySpace, ça fait toujours marrer tout le
monde. Toi aussi, tu as fait ce pari.
A place for friends. Je t'ai mis avec Tom.
Il y en a qui sont sur Mastodon, non, c'est pas vrai.
C'est toute la difficulté, je pense que tout blogueur se confronte au truc, c'est pas parce qu'on met les choses, et donc il y a presque d'abord un maillage qui est nécessaire entre blogueur et lecteur pour amener les lecteurs au blog et amener à cette habitude. C'est pour ça que je parlais du grand public tout à l'heure, que peut-être n'est pas encore venu à la valeur, à l'intérêt de la vie de ses pères, lecteurs et lectrices, c'est que il est difficile de construire une audience quand on fait un blog. Je pense que vous avez tous plus ou moins le même problème. Et il y a un usage, peut-être, pour le grand public qui n'est peut-être pas encore arrivé. Et si je suis en train d'hésiter, c'est parce que j'aimerais même avoir une solution à proposer, mais j'en ai pas.
On a répondu à ta question.
D'accord. Vas-y.
Alors, bonjour à tous. Je n'écris pas de blog. Je ne lis pas de blog. Je regarde à peu près une vidéo de maximum.
Qu'est-ce que tu fais là?
J'ai réussi à m'inscrire sur des forums où j'y ai passé à peu près 5 heures maximum. Je parle pas de 5 heures une journée, je parle bien de 5 heures dans ma vie. Et j'ai été libraire pendant 2 ans.
C'est toi. Voilà.
C'est moi. Tout ça pour dire que je pense que je ne suis pas la seule à ne pas avoir de temps à consacrer au blog et à Internet. Et que du coup, pour moi, le libraire est là pour pouvoir répondre à une demande, pour pouvoir donner des conseils dans un temps restreint. Et également donner des conseils pour des cadeaux. Parce que vous allez très bien connaître le blog qui va vous conseiller le livre que vous adorez, dans l'univers que vous adorez. Mais alors par contre, l'univers de polar, parce que moi, personnellement, je connais très mal le polar, je vais aller m'adresser à un libraire parce que je n'y connais rien, je ne vais pas savoir où me diriger. Voilà. Donc, je pense que c'est deux éléments qui sont vraiment complémentaires.
Merci beaucoup.
Je pense vraiment l'intérêt premier et le plaisir premier du blogging, de critique littéraire, d'opinion littéraire, quelle que soit la manière dont vous voulez vous placer le spectre, vous placez votre pratique, comment vous voulez le voir. Le premier, pour moi, le cœur du truc, c'est, on entend parler Christophe tout à l'heure, c'est simplement partager la passion de la lecture, c'est continuer la conversation de la littérature. C'est là qu'il est grand et bon.
Oh, merci. Si, je viens quand même vers vous. Mais non, mais parce que vous avez une expérience qui est formidable et ce que vous faites, c'est vraiment génial. Et moi, j'aimerais quand même envie de vous en parler un petit peu. Donc voilà, si vous ne les connaissez pas.
Christophe, t'aurais une question au fond aussi.
Ouais, très bien. Ouais, mais c'est pour moi qu'elle s'en file, alors je ne peux pas aller jusque là. C'est bon. Emma. Ou Afouka. Dupe. Expliquez-nous quand même ce que vous faites toutes les deux.
Rapidement, en fait, du même temps, on s'est rencontrés sur un forum littéraire. Parce que je pense que rien comme moi, alors c'était, on n'était plus libre, un book en stock, pour nous. Le blog c'est book en stock. Et parce que, du comme moi, on est lectrice dans une famille qui n'est pas forcément beaucoup de fantaisie, et on avait besoin de s'épancher, de raconter nos coups de cœur et tout ça. Et sur les forums littéraires, on était un peu bridés, on ne pouvait pas dire exactement tout ce qu'on voulait. Et donc, on s'est lancé il y a combien, 7-8 ans, tu vois, à écrire un blog. On sent que, voilà, c'était juste une façon de...
C'est hyper long en termes internet, ça.
Oui, oui, hein, je sais. On est hyper vieille aussi, nous, hein, quoi.
Non.
Et partage pour se faire plaisir, quoi. Et on n'est pas du tout, on en parlait avec Samantha ce matin, on n'est pas du tout du domaine littéraire, très loin. On ne savait pas du tout comment ça fonctionnait. Et on a découvert plein de choses, quoi. Et c'est un vrai plaisir pour nous, vraiment.
Juste parce que j'ai une petite question, si je suis nouveau, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué. On a parlé des blogs comme des blogs littéraires, de critiques littéraires, mais vous, et vous n'êtes pas les seuls, mais vous, ce que vous faites est vraiment passionnant. Vous avez aussi renouvelé un peu presque le journalisme littéraire d'une certaine manière, parce que vous invitez des auteurs à venir parler sur votre blog, vous leur consacrez un mois entier, ce qui est quand même, en temps d'internet, c'est un millénaire.
Au moins,
3 millions d'années, je sais pas. Enfin voilà, vous leur donnez une exposition qui est quand même fort. Comment c'est venu ça, justement, aussi, cette idée-là?
Ah, d'une belle manière que c'est moi, mais. On cherchait un moyen, justement, de se différencier un peu des autres, je pense aussi. Et puis, ce qu'on voulait surtout, c'est pouvoir mettre en avant des auteurs peu connus, mais pour qui nous, on avait des coups de cœur. Et donc, le but de ce mois, c'est à la fois d'inviter des auteurs très connus qui nous permettent d'avoir une certaine vision, enfin, visuelle. Popularité, merci, c'était moi que j'ai cherché. Et ce qui nous permet après de pouvoir aussi inviter des auteurs débutants qui ont un seul roman, mais que nous on a bien aimé, qu'on a envie de mettre en avant. Donc c'était un petit peu le but. Et puis ça nous crée aussi un petit peu des liens privilégiés, c'est notre récompense, quoi. On aime bien.
Qui est invité en mai
certainement, enfin en juin, un sort.
Oh bah non, on est encore en mai là, il y a encore. Ah c'est fini, alors c'est en juin. Jeune qui débute, mais qui a plein de promesses. Je ne savais pas, c'est ça. Je vais commencer à réfléchir à des questions à te poser parce que c'est vrai qu'on se voit pas assez souvent pour parler de. Il y avait une question au fond là. Chose qui évolue doucement. On va parler un petit peu des imaginaires et de la cuisine interne, mais par exemple le fait qu'on ait la présence du maire Prolongeau de Télérama qui soit présent, qui aime animer une table ronde et puis qui a un échange pour qu'on parle des imaginaires dans son magazine, c'est quand même aussi une marque d'évolution.
Ça bouge.
Je pense aux Arocs qui font tous les mois une page consacrée à la science-fiction. Ça fait des mois que j'entends qu'ils essayent de parler de fantasy.
À placer des gens.
Oui, mais c'est
la France Culture, finalement, il y a des gens qui.
Exactement.
Du genre. Mais le problème, c'est que moi, je parle purement et simplement du grand public.
Mais justement, ce sont des magazines qui touchent un public beaucoup plus large que le simple public des lectures de l'imaginaire. Et quand je parlais des Arocs qui font une chronique par mois sur, sur la science-fiction, c'est pas rien. Quand on annonce 5 romans de science-fiction dans les Inrocs, on touche quand même un public qui est quand même assez large. Moi, j'essaye de les pousser par Twitter en leur disant ce serait bien que vous fassiez la fantasy, ça serait sympa. Bon, pour l'instant, il n'y a plus de réponse. Mais ça va venir. Petit à petit, on commence à gagner. Vous parlez de France Culture aussi également. Il y a une très belle émission sur les états généraux de l'imaginaire il y a quelques semaines. On a entendu, pour ce qui concerne vraiment purement les imaginables, on a entendu Stéphane Wieser, Stéphane Nico sur les ondes de France Inter. Ce qui est aussi là une manière de progresser également. Donc, ça avance doucement, c'est un travail de fond, ça je pense que Lionel et Samantha ne me démentiront pas, ça sera long.
Non, c'est long. Quand on parle de loin, c'est toujours long. Hein. Et il y a de la friction, c'est, voilà, c'est progressif.
Et puis, bah, puisque tu as parlé de QSF, on va quand même les remercier aussi au passage, parce que QSF capte les conférences des imaginales et de bien d'autres salons d'imaginaire toute l'année et permettent aussi que ceux qui ne seront pas avec nous qui ne peuvent pas forcément toujours se déplacer, puissent également retrouver les rencontres et écouter les discussions qu'on peut avoir sur les salons. Et ça, c'est aussi, ça fait aussi partie des nouveautés qu'on peut évoquer.
Jérôme Vincent, il en parlait, était venu à Rennes il y a, je ne sais plus, quelques mois. Et il parlait aussi, pour moi, d'un truc extrêmement intéressant, rapport à l'activité des genres que nous aimons. Il mettait aussi en avant l'aspect d'une construction d'une mémoire du genre. Et il disait, l'initiative de ça, c'était né que, en festival, et puis il se disait des trucs parfois super intéressants. Alors, je ne sais pas si on rentrera dans cette catégorie, mais. et c'était perdu. Et c'était hyper dommage. Et il disait, il faut une véritable fonction d'archiviste. Et maintenant, je ne sais plus, il avait dit, d'ailleurs, je ne sais pas, plus de 10 ans d'archives. Alors, au début, c'était quelques conférences, maintenant, c'est toutes. Et c'est un témoignage qui est précieux, ne serait-ce que pour. Voir l'évolution des choses, et je pense que si on aime le genre, c'est intéressant aussi de s'intéresser à son histoire. Et c'est
et à titre personnel, c'est un outil que j'utilise énormément quand je prépare les tableaux, parce qu'il y a moyen d'aller chercher de l'information et d'aller pourquoi pas trouver des idées de questions. On a encore le temps pour une question aussi. Allez, on va essayer de faire vite les deux. Ah, zut.
Alors moi je voulais déjà répondre un peu à la jeune fille qui a été libraire. Moi je suis bibliothécaire, on oublie souvent les bibliothécaires, mais on peut aussi vous conseiller, et en plus on est nombreux, donc souvent
j'aimerais qu'il vous fait une pub en ce moment.
Oui, il a fait une vidéo chez nous, on est ravis, on lui a fait des bisous, enfin la totale. et donc voilà, il y a les bibliothèques, et pour le coup moi je sais que c'est moi qui achète les littératures de l'imaginaire, et je passe souvent par les blogs. Après, moi, je vais sur Babelio parce que tout est au même endroit, je peux voir le nombre de lectures. Et beaucoup de blogueurs, peut-être parmi ceux qui sont ici, mettent des liens sur Babelio qui renvoient vers leur blog. Et donc ça, c'est un outil pour nous pour acheter, qui est génialissime. Surtout que, voilà, dans le domaine de l'imaginaire, il n'y a pas forcément de couverture médiatique. Donc comment on va repérer quelque chose qui a beaucoup plu, mais dont personne ne parle dans nos livres, dans nos magazines professionnels, Libendo, etc. Voilà, on peut passer là-dessus. Après, voilà, moi, je vous dis, j'aime beaucoup Babelio. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Samantha, Lionel. Vous allez voir, est-ce que vous allez voir.
Moi, je regarde toutes les critiques, hein, c'est bien. Mais non, mais ça permet de référencer vraiment et d'avoir, enfin, en tant qu'auteur, ce qui est intéressant, c'est qu'on clique sur votre nom, on regarde les critiques, on voit par ouvrage, et ça fait dire, moi, je sais pas, je vais avoir genre 700 critiques sur Babelio. En tout cas, c'est énorme, en fait. Hein. Donc, ça permet vraiment de voir de façon centralisée et lire toutes les critiques.
Ils sont super actifs, parce que sur Twitter, ben je sais pas.
Oui, c'est impressionnant.
Il y a une nouvelle critique et vous recevez un tweet à vous. Hein.
Oui,
toi, tu as un nouveau texte.
J'ai compris comment dès qu'il y a. Parce qu'ils sont marrants, parce qu'ils font le tri entre les mauvaises et les bonnes quand même pour nous taguer, ce qui est quand même assez délicat de leur part. Donc dès qu'il y a plus de 4 étoiles, il y a. Oh, une nouvelle critique, etc. Parce que j'ai vu qu'il avait aussi ça pour leur remonter d'informations si on veut le mettre sur notre propre site, ce qui est hyper pratique. Hein. Donc, ils ont cette délicatesse.
Et en fait, je te rejoins parce que je suis aussi bibliothécaire et j'ai le même réflexe que toi. Je veux même consulter les revues professionnelles, je vais directement sur les blogs, etc. Moi, j'avais plutôt une question sur la légitimité de certains blogs ou pas. Parce qu'on me parle.
C'est bien justement, c'était fait quand même.
Ça s'était bien jusqu'ici. Julien,
on avait fait attention.
De
je suis également blogueuse à côté d'être bibliothécaire et je me pose moi-même la question de est-ce que ma chronique va être légitime au final et par rapport à qui ? Parfois, je ne me sens pas légitime dans ce que j'écris.
Moi, je pense que déjà, il y a une grande différence entre un avis et une critique. C'est-à-dire qu'on peut différencier un blogueur, un youtubeur, un blogueur qui donne un sentiment très personnel en disant j'ai aimé, j'ai pas aimé, pourquoi, ça m'a rappelé si, j'adore les chiens, il y avait des chiens, enfin bon, voilà. Et puis, la critique construite, analysée, etc. On est maintenant dans une société où c'est quasiment le mélange des deux, c'est-à-dire vous prenez la page Amazon, avis, voilà, c'est un peu ça, quoi. Donc, pour la légitimité, je dirais que je pense que tout le monde est légitime à donner son avis sur tout. Enfin, voilà, c'est...
Avec un caveat, quand parfois on a des critiques où c'est juste une très mauvaise critique parce que la personne a reçu un bouquin d'un genre qu'elle ne chronique pas ou le troisième volume sans ce qui précède et nous fait une mauvaise chronique pour ces réponses-là, pour ces raisons-là, ça n'a rien à voir avec le bouquin, quoi.
Oui, et puis il y a souvent, enfin, c'est assez intéressant, je voyais en littérature jeunesse, je m'interroge beaucoup, mais. Parfois, il y a des chroniques qui sont genre « Ah, bah, c'est un bouquin pour les ados. Bah, moi, j'aime pas parce que bah, je suis plus une ado. Bon, bah, je mets une étoile, d'accord. » Non, mais c'est pour dire que je pense que, en effet, on peut donner des avis sur tout en permanence, mais la critique construite, c'est aussi savoir preuve d'un peu de distance, d'objectivité et parfois de se rendre compte de toute la complexité qu'est le ressenti face au livre. C'est-à-dire que je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait qu'il y a des livres qu'on a adorés à une période de nos vies, qu'on n'a pas aimé à d'autres, que bah voilà, c'est un livre, on n'est pas sur de l'objectivité, de toute façon, on est quand même sur un miroir tendu, sur notre sensibilité, sur notre vécu, et c'est de ça dont il s'agit. Donc parfois, c'est aussi intéressant de pouvoir distiller un petit peu de nuance.
On va s'arrêter là, parce que du coup, je ne réponds pas à ce que je pourrais dire, mais du coup, je vous invite pour la réponse, allez chez moi. Parce qu'en fait, j'ai une série d'articles qui s'appelle « Oui, la critique peut être objective », mais je vous propose des grilles de lecture de la critique, tout ça est extrêmement complet, bref. Et un article plus récent qui s'appelle « Là où la critique s'arrête », qui parle de ce qu'il ressent.
Très bien, oui,
merci beaucoup.
Je vais terminer juste en vous disant deux choses, parce que ça me vient en écoutant les débats qu'on vient d'avoir là. La première chose, c'est que si ça vous intéresse de participer aux états généraux, puisque la table ronde avait lieu juste avant pour présenter ça, qui normalement se déroulera aux Utopiales à l'automne, mais on sait que ça va être un mouvement qui devrait être un peu de fond, et quand je vous écoute, je pense que vous avez aussi toute votre place pour justement essayer d'avancer et créer des synergies entre les différents mondes, et pas seulement le monde professionnel, mais aussi l'autre côté, ceux des lecteurs. Et puis la deuxième chose, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure, il y a le mois de l'imaginaire en octobre, on va aussi compter beaucoup sur vous, c'est-à-dire que justement l'objectif c'est d'avoir de la visibilité pour les gens de l'imaginaire, et donc ça passera aussi par vous, ça passera par vous lecteurs, ça passera par vous blogueurs, ça passera par vous libraires, ça passera par vous bibliothécaires, ça passera par vous tous ceux qui font aussi la chaîne du livre, pas la chaîne professionnelle, mais celle qui la continue de l'autre côté, et là je pense que on sera tout à fait en phase.
Ouais, la chaîne du livre, elle ne s'arrête pas au libraire, au point de vente, elle continue avec les blogueurs, les lecteurs, c'est cette partie intégrante totalement, on est tous passionnés de l'imaginaire, je pense qu'on a tous envie qu'il y ait une place plus importante qui leur soit réservée, donc vous êtes totalement, et il y a besoin de bonne volonté en plus.
Et parce qu'on n'oublie pas aussi que les imaginaires sont un succès, c'est aussi parce que vous y venez, et pour ça, on vous remercie énormément.